La place de l'animal dans l'agroécologie avec Marc Aulagnier et Stéphane Équimian.
Alors, je ne suis pas trop habitué à parler avec un micro, donc on verra en fonction de... Voilà. Donc, bonjour Stéphane, je suis éleveur dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. C'est important la précision, je suis éleveur de bovins allaitants. C'est-à-dire que je produis de la viande, d'accord ? Alors, j'ai des animaux, et derrière, la finalité, c'est de faire de la vente directe avec le produit issu de ces animaux. Donc, tout d'abord, je ne suis pas issu du monde de l'élevage, donc j'ai un passif plutôt en environnement. Et dans mon métier, avant, j'étais dans un bureau, et je regardais un peu j'avais à gérer des espaces naturels, donc pour maintenir une mosaïque, biodiversité, etc. Il faut des mosaïques de milieux, de paysages, et il faut des milieux ouverts, notamment, des milieux forestiers, des milieux plus ou moins arbustifs. Et derrière, on faisait venir des entreprises avec des broyeurs, on faisait broyer les espaces parce qu'on n'avait pas de berger, on n'avait pas de moutonnier. Donc on mécanisait ces espaces, mais ce n'était pas cohérent entre faire de la biodiversité. Et puis derrière, pour obtenir cette biodiversité, il fallait mécaniser, donc utiliser l'énergie fossile derrière cette thématique. Donc j'ai décidé de passer de l'autre côté, donc d'être éleveur, dans le sens que c'était un souhait d'avoir une entreprise et derrière d'aller jusqu'au bout par rapport à une notion de qualité de produit. Donc rapidement, l'agroécologie, donc ça a été présenté par Eliane. Faut savoir que c'est à l'échelle d'une ferme, même au niveau de la société, c'est vu par trois piliers. Donc il y a un pilier économique, un pilier environnemental et un pilier sociétal. D'accord ? Et le but du jeu dans une ferme, quand on vient de l'agroécologie, c'est de relier ces trois piliers. Notamment, un, le pilier économique, c'est que la ferme puisse vivre, d'accord, de sa production. Au niveau environnemental, c'est à la fois répondre à des besoins par rapport à la biodiversité, répondre par rapport à des notions de qualité de l'air. On va parler du carbone, on va parler du climat. C'est également la qualité de l'eau et également faire un produit, d'accord, de qualité. Donc, et puis répondre aussi à ces notions de bien-traitance animale. On ne va pas parler de bien-être animal, parce que moi, aujourd'hui, le bien-être animal, je le considère que c'est pris par les industriels. Et là, on va plutôt parler de bien-traitance animale. D'accord ? Donc, on repart sur ma petite ferme. Ça y est, vous avez vu les trois points de l'agroécologie. Donc, sur ma ferme, j'ai des vaches écossaises, donc comme vous pouvez voir sur la photo. Donc, c'est des vaches avec des longs poils, des grandes cornes, qui sont issues de l'Écosse, du nord de l'Écosse. Donc, le nord de l'Écosse, on a des territoires difficiles, on a beaucoup de bruyères, des collines, un climat rude, des pluvieux, froid. Donc, ces petites vaches sont adaptées à ces conditions. Et elles sont réputées pour être très bonnes débroussailleuses par rapport à leur rusticité. Donc j'ai choisi de prendre ces animaux pour les mettre en Auvergne parce que n'étant pas issu du monde agricole, je n'ai pas de propriété. Donc pour faire de l'élevage sans propriété, c'est difficile. Mais ces vaches me permettaient d'avoir une niche de terrain dans lequel je pouvais à la fois entretenir des espaces naturels avec le CEN, Conservatoire des espaces naturels d'Auvergne, et également le département sur les espaces naturels sensibles. Donc, j'arrive à avoir du terrain, sauf le foin, pour l'instant, c'est un peu difficile. Mais on réfléchit à assurer l'ensemble de la nourriture pendant l'hiver. Donc, le but du jeu, là, on va commencer par le bâtiment. Dans quel bâtiment sont ces vaches ? Eh bien, leur bâtiment, elle est constituée de 6 hectares. Donc, un bâtiment de 6 hectares, c'est presque la ferme des 1000 vaches, mais ce n'est pas le cas. Donc, 6 hectares, les murs sont des haies. Donc, ça protège du vent, ça fait de la biodiversité, ça abrite les veaux, ça abrite les vaches. Le toit, ce sont les arbres qui permettent à la fois d'avoir de l'ombrage, de protéger du climat, de la chaleur, des fortes chaleurs qu'on peut avoir, mais également de la pluie. Et derrière, on peut également s'en servir comme fourrage. Donc, 80% du temps, mes vaches sont sur des espaces naturels, comme je vous les ai dit tout à l'heure. Donc là, elles se nourrissent d'herbes. Alors, c'est pas forcément que de la graminée, ça peut être de la graminée, de la légumineuse, des arbustes, des feuilles, des fruits. Et derrière, le but du jeu, c'est de... Je suis le chef, on va dire que je m'appelle Top Chef. Et le but du jeu, c'est de présenter le maximum d'alimentation à mes vaches pour qu'elles puissent se servir comme elles le souhaitent. Donc derrière, elles ont à la fois une vache qui a vêlé, d'accord, qui peut avoir des douleurs au niveau articulaire et autres. Elle peut aller manger du saule. Et dans le saule, on a l'acide salicylique. Et cet acide salicylique, c'est l'équivalent de l'aspirine. Donc, plus je diversifierai l'alimentation, plus mes animaux seront à même de s'auto-gérer. Et le but du jeu dans la ferme, c'est pas de guérir, c'est de prévenir. D'accord ? Donc, pour ce qui est du foin, pareil, faut faire du foin pour l'hiver. Et ce foin, il n'est pas récolté tôt, même s'il est très riche, il serait très intéressant. Mais mes vaches sont relativement rustiques. Et donc, elles sont à même de digérer, on va dire, du plus ligneux, plus dur. D'accord ? Donc à partir de là, je joue sur les prairies, je fais que de la prairie naturelle. Et derrière, je fais grainer, je fauche pas tôt, je laisse le stade épiaison, d'accord ? Et au-delà de l'épiaison, il y a les graines qui vont tomber. Et je laisse, avec des rotations, je fais grainer mes prairies de manière à renouveler la banque de graines dans le sol pour que cette dernière puisse se régénérer. Pour ce qui est du fumier, je suis en plein air intégral, donc c'est une gestion, j'ai pas de stock de fumier, j'ai pas d'épandeur, j'ai pas de tracteur au sens pour épandre de matériel. Donc ce que je fais, c'est que je joue pendant l'hiver avec mes rotations. Je donne à manger à mes vaches, pas avec des râteliers, mais à la main, par rapport au contact, le rapport avec l'animal en hiver, parce que sinon, on pose les bottes dans un râtelier, je dis pas que c'est négatif, mais les miennes, elles gaspillent. C'est-à-dire qu'elles ont des grandes cornes, et quand elles vont dans le râtelier, elles plantent la tête, la corne, dans la botte de foin, elles la lèvent. Elles font tomber le foin par terre, elles le regardent et elles se disent « c'est meilleur dedans ». Donc elles recommencent et elles me gaspillent le foin qui est bon, mais qui, une fois qu'il est hors du râtelier, elles ne le mangent plus. Donc j'ai décidé de leur donner à la main. Et dans ce cadre-là, je vais quadriller mon parcellaire et je vais amener mes bottes à un endroit. Je vais distribuer à la main et notamment par rapport aux parasites, elles vont bouger forcément. Là où il y a la nourriture, elles vont être plutôt fixées. Donc elles vont bouger. Et puis au fur et à mesure de l'hiver, je vais tourner sur mes parcelles et comme ça, je vais déposer les bouses sur l'ensemble de mes parcelles. D'accord ? Donc ça, c'est une chose. Après, en termes de... donc les prairies, c'est fait. Au niveau de la santé, alors, comme je vous disais, c'est le préventif d'abord. Alors préventif, c'est sympa. Si on donne bien à manger à ces animaux, c'est comme nous. Si on mange bien, on est moins malade. Si on ne mange pas comme il faut, derrière, on a des répercussions. Donc, c'est la base. Alors, derrière, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on travaille, on a monté une association qui s'appelle Éleveur Autrement. J'ai une veste avec le logo derrière. Donc, c'est des agriculteurs qui sont nature et progrès, bio ou conventionnels, qui avaient pour objectif de travailler sur la notion de réduire les coûts, déjà. Parce que vous savez que dans les fermes, maintenant, il y a beaucoup d'industriels, il y a beaucoup de commerciaux, il y a beaucoup de monde qui vient vous solliciter pour vendre des produits. Et notamment le vétérinaire n'est pas des derniers dans cette affaire. Donc le but du jeu, c'était de réduire les coûts. Et donc comment réduire les coûts et être autonome sur certaines pratiques. Donc là, on a appris à faire de l'ostéopathie. Vous pouvez voir sur certaines photos, il y a une vache qui est attachée. Oh, elle est attachée à un arbre en plein milieu d'un pré. Et cette petite vache, elle avait un petit souci, donc on lui remet les vertèbres. D'accord ? Donc comment peut-on remettre une vertèbre sur une vache ? On peut bien se poser la question... Alors, il n'y a pas de personnes, des gros balèzes de 140 kilos bien musclés, mais quand ces derniers vont chez l'ostéo, moi j'ai une ostéo qui est toute frêle, toute menue, et elle arrive à manipuler des grosses baraques et à leur faire du bien sans les bousculer. Donc on est à même de faire la même chose sur les vaches. Après, quand ça ne suffit pas, ou normalement par rapport à du stress, parce qu'il faut parler aussi que moi je fais de la viande, d'accord ? Donc forcément, il y a une fin, entre guillemets, à tout. Et dans ce cadre-là, on utilise également de l'homéopathie pour arriver à la fois solutionner des soucis de santé, arnica, ce que vous utilisez classiquement, j'utilise pour mes vaches, et également on utilise le gélénium pour les derniers moments de l'animal. Donc ça c'est dit, ça fait combien de temps là? Je ne sais pas. Au niveau du temps, c'est bon? Ouais. Pour finir, entre guillemets, non, pas pour finir, alors comment je fais tout ça? Parce que moi je suis en plein air intégral. Normalement, s'il y a des personnes qui connaissent un peu l'élevage, plein air intégral dit que le contact avec les animaux, il est moins qu'un laitier. Monsieur est laitier, il laiterait matin et soir, ou peut-être pas, monotraite. Que le soir? Que le matin. Donc il est monotraite. Mais sinon, l'agriculteur laitier, il est matin, soir, il va donner à ses animaux, il va leur toucher le pis pour extraire le lait. Donc forcément, il y a un contact, un relationnel différent. Là, mes animaux, ils sont à l'extérieur, donc on pourrait dire, oh là là, ça va s'ensauvager, comment ça va se gérer? Là, le but du jeu, c'est que je travaille avec des animaux qui sont censés avoir une réputation, entre guillemets, avec leur tête un peu sauvage, mais c'est que l'image, l'habit fait pas le moine. Et également, je travaille avec des chiens. Alors, le chien, il n'est pas là pour faire du mal à l'animal, il est simplement pour rassurer l'animal, le conduire, parce qu'on dit un chien de conduite. Donc il est pour conduire et rassurer le troupeau de manière à pouvoir être autonome en personne, c'est-à-dire que je suis tout seul avec mon chien et mon troupeau, pour à la fois le conduire sur une route, le séparer parce que je dois séparer une mère de son veau, le mettre dans une bétaillère, faire multiples usages, leur donner du foin, mais sans que les vaches elles me sautent dessus, parce qu'un troupeau avec des grandes cornes, bon, on ne sait jamais, sans dire que ce soit dangereux, mais il faut faire attention. Donc tout ça fait qu'on va amener l'animal, on crée une ambiance, voilà. Et depuis tout petit, quand les jeunes, au moment du sevrage, ils sont habitués à avoir une ambiance sereine et à avoir confiance au chien, parce que le chien, il est en été, c'est le méchant, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce qu'on ne s'en sert pas pour faire du combat de chien contre une vache, non. C'est simplement de dire, tu t'en vas de mon troupeau, tu t'en vas loin du maître, je suis là. Tu reviens près du maître, je suis là, mais je ne te fais rien. D'accord ? Donc, c'est donner une règle du jeu. C'est une barre, c'est une clôture mobile, on va dire. C'est un fil qui revient. Le chien, il va chercher la vache. Il ramène la vache. Voilà. Donc, c'est une ambiance sereine. Au-delà de ça, j'attache mes animaux. Oh, j'attache mes animaux à la corde. Bah oui, il faut leur apprendre. Il faut leur apprendre parce que le but du jeu, c'est si je veux faire de l'ostéopathie, il faut que je puisse les toucher, mes animaux. Je ne vais pas faire 10 mètres. Je ne vais pas pouvoir leur remettre une vertèbre. Donc, le but du jeu, c'est de les attacher, leur apprendre la tâche sereinement, avec confiance. Parce que, je ne sais pas si vous... Même une personne stressée dans le travail, plus on est stressé, il y avait des méthodes qui disaient, plus on va stresser les employés, plus ils vont être productifs parce qu'ils vont être stressés, donc ils vont tout dégager l'énergie qu'ils peuvent pour le travail. C'est l'inverse. Maintenant, il y a les start-up où, entre guillemets, on peut être stressé, mais il y a aussi la notion de bien-traitance, on va dire, de l'employé. D'accord ? Et bien là, le but du jeu par rapport aux vaches, c'est la même chose, c'est arriver à bien traiter ces animaux. Et si on les traite convenablement, on réussira à faire tout ce qu'on veut, entre guillemets, à les accompagner à faire différentes choses, alors que si on les stresse, on aura l'inverse. Maintenant, on arrive vers la fin. Ça y est, mes animaux, ils ont 5 à 6 ans d'âge. Donc, vous pouvez voir, ce n'est pas des bêtes de 36 mois, ce n'est pas des veaux sous la mer. C'est des bêtes de 5 à 6 ans d'âge qui sont élevées dans la ferme. Donc, pour vous dire qu'on crée quand même une certaine relation avec ces animaux. Ce n'est pas simplement « je ne te vois pas, je te donne à manger, puis 36 mois après, tu pars à la casserole ». Non. Donc, le but du jeu, alors, ça, c'était notre éthique, parce que vu qu'on n'est pas issu du monde agricole, on avait une vision vierge à ce sujet. Et derrière, le but du jeu, c'était de se dire, soit que mon animal soit bien tué, c'est une chose pour la qualité, mais ça, c'est purement technique, on va dire. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est de dire, l'animal, il donne sa vie, d'accord ? Donc, pour donner sa vie, forcément, il y a un respect à faire. Et j'ai une approche un peu à l'amérindienne, dans le sens que tout animal qui part de la ferme, déjà, on discute avec lui. Alors, dans l'association Élevons Autrement, alors, c'est pas forcément facile à expliquer. Il faut plutôt le vivre et le comprendre en direct. Parce que vous expliquez que je parle à mes vaches, on peut se dire, oui, tu parles Marguerite, tout va bien, demain, tu pars à l'abattoir. Non, ça va au-delà de ça, d'accord ? Et donc, d'ailleurs, on met une situation dans le sens que il y a un pacte entre l'animal et moi, dès la naissance. Et le but du jeu, c'est d'arriver à répondre à ce pacte, aussi bien en bien-traitance durant sa vie qu'en fin de vie, je l'accompagne jusqu'au bout, dans le sens que je ne mets pas une bête, je ne fais pas venir un camionneur ou une bétaillère pour que l'animal s'en aille à l'abattoir et qu'il reste la veille, parce que c'est la réglementation, à l'abattoir pour qu'il soit tué le lendemain. Ça, c'est niet, parce que mes animaux, c'est du plein air intégral. Ils ne savent pas ce que c'est à part un toit, un tronc d'arbre, un arbre, ils ne savent pas ce que c'est qu'un toit. D'accord ? Donc, je ne vais pas leur occasionner ce stress la veille pour le lendemain. Donc, j'ai la chance d'avoir un petit abattoir qui m'autorise à amener les animaux le matin. Alors, l'animal le matin. Et l'animal est assommé, d'accord, étourdi dans la bétaillère. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de son environnement. Il est à l'abattoir, mais il ne sort pas de son environnement. Et j'ai encore plus de chance, c'est-à-dire que je peux choisir la personne qui réalisera l'acte. Et bien évidemment, je suis à côté de l'animal quand il part. Voilà. Donc tout ça pour revenir à la notion de nature et progrès. Nature et progrès par rapport à l'agroécologie et l'élevage, le cahier des charges, c'est ça. Voilà. C'est arriver à respecter l'animal, la terre, le consommateur, le vivant. Et tout cet ensemble-là fait partie de nature et progrès.
Moi c'est Marc là. La ferme elle existe depuis 1684. Et auparavant, c'est en polyculture élevage. Et puis quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup les vaches. Je suis parti dans l'élevage laitier avec des races de montagne, Montbéliard, Abondance et Tarine. Au début, on a commencé par les Montbéliard. Et puis, on a on avait un petit troupeau et j'ai agrandi le troupeau. Et puis j'ai agrandi les bâtiments, j'ai fait une étable, un séchage en grange pour assurer une bonne alimentation des vaches. Et puis une autonomie alimentaire pour les vaches aussi. Et on a démarré en bio en 71, voilà, dans les années 71. Enfin, il y a beaucoup de parcelles qui n'ont jamais été traitées parce que les premières années qu'on a désherbé les céréales, c'était 2 hectares, c'était 69, 70, 71. Et puis quand j'ai vu une tête de mort sur le bidon, j'ai dit, ben, il vaut mieux semer la vie que la mort. Alors, donc on a arrêté systématiquement. Et j'allais encore à l'école, à la maison familiale, et je disais aux moniteurs que le chlorure de magnésium remplaçait les antibiotiques dans les corps infectieux des vaches, et donc ça les faisait beaucoup rire en fait. Et voilà. Et bon, voilà. En 2019, on est encore là, et je pense qu'on a été très critiqué pendant 20 ans. Et dans les années 2000, ça a commencé à changer de tournure, quoi. Et puis, alors on a changé de mode d'exploitation il y a une dizaine d'années. Donc j'ai trait qu'une fois par jour, et j'ai remis le veau avec sa mère. Parce que souvent, on laissait têter le veau 2-3 jours, et après on séparait le veau de la mère. Et en 2010-2011, donc j'avais pas d'ouvrier, on prenait un ouvrier ou des stagiaires. Et du coup, en remettant le veau avec sa mère, tout le temps avec sa mère, quoi, donc on a retrouvé un équilibre écologique qu'on est à zéro antibiotique. On n'a pas fait d'antibiotique depuis 2012. Et la vache et l'homme, ils s'en portent que mieux, quoi. Et du coup, donc tout se passe bien. Et ce qui fait que les veaux qui naissent sont tout élevés. Ils sont élevés, tout le monde est élevé sur la ferme, quoi. Après, donc, on les accompagne. Donc, on tue des bêtes. On vend des bêtes pour l'abattoir, parce qu'on vend de la viande aussi. Et j'emmène les bêtes à l'abattoir. Donc, on est, nous, dans les monts du Lyonnais, dans les coteaux du Lyonnais. Et en fait, avant, j'allais à un petit abattoir Drift de Gier. Et puis maintenant, ils ont fermé. Ils ont fait un McDo à la place. Et donc, on va maintenant à l'abattoir de Saint-Romain-de-Popet. Et je les emmène le matin, c'est autorisé le matin avant l'abattage de 4h30 à 6h. Et j'arrive à 6h moins 5. Quoi. Et la bête, je l'emmène directement dans le sas où elle va être tuée. Quoi. Et puis jusqu'à la mort, elle est là. Quoi. Je l'accompagne jusqu'à la mort. Et puis les vieilles vaches de réforme, pareil aussi, elles partent aussi pour faire donc des steaks hachés. Et de la bonne viande qu'on vend aussi à la ferme. Et du coup, c'est le même processus parce que c'est le même abattoir. Et c'est le même... Et souvent, les vaches, qui a eu plusieurs vaches... Les vaches, on les garde tant qu'elles ont envie de vivre, en fait. On les garde donc tant qu'elles ont envie de faire un veau, déjà. Et puis après, tant qu'elles ont envie de vivre, et souvent... qu'il y en a une... Donc, que la dernière... Il y a elle était de 98, elle est morte en 2017. Elle avait fait plus de 100 000 litres de lait dans sa vie, et je pense qu'elle était plus performante qu'une vache qui a fait les concours à Paris. Et du coup, c'est de Montbéliard. Elle s'appelait Orange, et du coup, elle a laissé plein de filles à l'écurie que dans les tables. Et voilà. Et le respect de l'animal, il commence par là. En fait, il commence par... C'est en le regardant, observant. De toute façon, du moment qu'on remet l'animal avec sa mère, c'est vrai qu'on résout beaucoup de problèmes, quoi. Je ne sais pas si vendredi vous avez vu Chemin de Travers, là, le film. Il y avait le film qui est passé. On se trouve dedans et j'explique aussi dans le film voilà, le rapport entre l'homme et donc l'animal. Quoi. Et puis en plein été, enfin au printemps, du coup, donc chez nous, on est dans une région sèche et en fait, on a toujours monté en alpage. En fait. On a toujours emmené nos justices en alpage. Donc les jeunes génissent. Et du coup, ben, c'est un plaisir de les voir manger de l'herbe qui ne serait pas mangée, de l'herbe en alpage qui ne serait pas mangée parce que donc il n'y a pas assez que d'effectifs pour manger. Et du coup, donc elles ont trois printemps en fait. Elles en ont un chez nous, un au mois de juin quand elles montent en alpage et un souvent à l'automne quand elles reviennent parce que l'herbe a commencé à repousser. Quoi. Et donc on vend à la ferme. Le samedi on fait un marché à la ferme où plusieurs producteurs bio viennent. Et c'est vrai qu'ils ont, ben, ils ont la chance de pouvoir avoir les vaches avec les veaux dans les tables ou dans les prés. Et puis voilà. Et souvent, ben, donc les vaches, elles partent, quand je les emmène au pré, elles partent par la route. Et il y a 30 vaches et 20 veaux, mettons. Ça fait une cinquantaine de bêtes qui partent par la route et souvent les gens, quand on traverse la route, ils ont l'impression d'être au stop. Je leur dis, vous n'êtes pas au stop à Lyon, mais vous êtes au stop sur la route. Et y a, en général, les gens sont contents de voir ça. Et souvent, y a les gens ils s'arrêtent et il y a un copain qui est donc médecin et il part... Il me suivait en bateau. Et puis je lui dis, Marc, il s'appelle Marc aussi. Je lui dis, je t'embête avec mes vaches. Il me dit, Marc, tant qu'il y aura des moments comme ça dans ce bon monde, eh ben, c'est que ça va pas si mal que ça. Eh ben, on trait ce qui reste. Parce que vu que c'est les veaux qui sont prioritaires, enfin, donc les premiers jours que la vache a vêlé, déjà, donc, qu'on apprend à teuter aux veaux, parce que des fois, il faut... Le petit veau, il ne sait pas têter. Et puis, des fois, donc, la mère, elle n'accepte pas. Plus ou moins. Parce que des fois, déjà, le premier veau, elle ne connaît pas. Et puis, du coup, ben, il faut apprendre à la mère à apprécier son veau. Elle a fait son veau. Il faut qu'elle assume jusqu'au bout. Quoi. Alors, du coup, ben, voilà. Donc, on apprend à têter. Et puis, après, ben, donc, avec le lait, ben, donc, on fait des fromages. Des fromages et des rigottes, des fromages blancs qu'on vend à la ferme. Quoi. Et puis après, donc, qu'il y a de la viande et congelée et qu'on vend aussi. Quoi. Et le samedi, donc, il y a un marché qui est important où c'est qu'il y a une dizaine de producteurs qui viennent sous l'hangar à la ferme. Et les gens sont contents de se retrouver déjà pour acheter, pour discuter. Et puis pour savoir attendre, pour se faire servir, parce que donc le temps d'attente chez nous, c'est entre trois quarts d'heure et une heure pour se faire servir. Alors du coup, ils ont le temps donc d'apprendre à se connaître. Parce que souvent, les gens du même village qui viennent, ils ne se connaissent pas. Et du coup, je leur dis, vous habitez à 500 mètres l'un de l'autre. Et ça, voilà. Et c'est toujours un moment convivial. Les gens, quand ils sont venus une fois, ils ont envie de revenir. En fait. C'est pas je veux vanter le marché. Et c'est vrai que voilà mais de toute façon donc lorsqu'on respecte la vache donc que l'animal eh ben on s'y retrouve automatiquement on se retrouve donc l'animal nous le rend en fait et pour la terre c'est pareil si on respecte la terre elle nous le rendra.
Merci Stéphane, merci Marc pour ces deux beaux témoignages. Je peux confirmer que le marché des Clarines, c'est une sortie très sympathique, parce que j'ai eu la chance d'en profiter plusieurs fois. Donc la place est à vos questions ou témoignages ou réflexions. N'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro.
Bonjour, moi j'aurais une question pour Marc. Est-ce que tu pourrais nous dire, s'il te plaît, quand tu dis que tu traites ce qui reste après que le veau ait tété, un petit peu, le veau il tète les trois quarts, la moitié, c'est ouais, variable.
Alors ce qui fait, donc les premiers jours, il reste trois quarts, la première quinzaine, entre la deuxième quinzaine et un mois et demi. Pendant un mois, il reste donc la moitié. Et au bout d'un mois et demi à deux mois, il ne reste plus rien. Donc, on n'a plus le droit de traire la vache. Enfin, donc, je la traie ou je ne la traie pas. Mais le veau, donc, il tète tout. Et puis, en fait, le veau, il est plus malin que les humains. Parce que quand le petit veau... S'il y a un gros veau qui n'a pas assez de lait chez sa maman, quand le petit veau, il tète et contre le flanc de sa mère... Le gros, il vient par derrière et il pique les traillons de derrière. Et il dit, ben moi, je vais me servir pendant que le petit tête, la mère, elle me voit pas. Et c'est souvent que ça se passe comme ça. Et en fait, ça, c'est des veaux qui profitent. C'est des veaux qui poussent, quoi. Et pour vous dire, donc et le gain moyen, j'ai eu des veaux donc, l'année passée avec des vaches qui avaient du lait parce qu'elles allaient à l'herbe au printemps. Ils prenaient plus de 2 kilos par jour. Plus de 2 kilos par jour, avec les vaches qui mangeaient de l'herbe et les veaux qui mangeaient de l'herbe aussi. Quoi. Et du coup, donc on n'a pas besoin tout un système de industriel et des formateurs qui n'ont jamais vu une vache, qui se croient savoir tout. Et qui n'ont jamais eu une vache, mais donc revenir au truc réel, donc revenir à la base, c'est comme les humains, donc remettre l'enfant à sa mère, que la mère elle s'occupe de son enfant, je pense que c'est les bases de la vie.
Du coup, j'avais aussi une question pour Marc, pour un peu mieux expliquer. Tu n'as pas fait comme Stéphane d'expliquer leur alimentation, qu'est-ce que tu faisais ? T'es aussi en tout prairie Est-ce que tu sèmes des choses ? Est-ce que tu fais des compléments alimentaires avec des graines, du fourrage, je ne sais pas ?
D'accord. Alors, donc la ferme se compose de 75 hectares de ferme, 60 hectares de prés et 15 hectares de céréales, 13 hectares de mélange de céréales seigle-vesse qui sont ressemées depuis seigle-vesse et puis autres qui sont ressemées depuis 40 ans, qu'on n'a jamais racheté. Et puis, donc... 1,5 hectare de blé, 1,5 hectare de variétés anciennes qui sont là pour qui sont vendues pour pour les gens qui en veulent pour leur poule et puis qui sont conservées pour faire du pain, qui sont conservées pour faire de la farine boulangère parce que on a un fils qui va peut-être revenir à la ferme en tant que pour faire du pain quoi, en tant que paysan boulanger et du coup on a conservé cette variété de blé ancien, quoi. Voilà. Et puis après, les 60 hectares de prés, eh ben, ils se composent que des prairies naturelles, parce que c'est des prairies que j'ai converties, qui sont passées en des terres labourables qui sont passées en prairies, et que je ressème pas, et que je ressème jamais, parce que dans les prairies naturelles, on a à peu près 35 espèces de plantes qui poussent. Et du coup, donc, qu'on n'a pas besoin de... En minéraux, on a besoin de très peu de minéraux parce que avec la variété de plantes, et ben du coup, et ben les vaches, elles se portent bien, quoi. Et en fait, les vaches, elles sortent tous les jours et elles mangent de l'herbe ben, dès que ça pousse. La semaine prochaine, elles vont commencer à manger de l'herbe et jusqu'à l'automne prochain, quoi.
Bonjour, moi j'aurais aimé que vous nous parliez tous les deux de la rentabilité économique de votre modèle, c'est-à-dire qui vit sur votre exploitation, est-ce que vous avez des salariés, enfin voilà, est-ce que c'est rentable ces modèles-là et...
Eh bien, nous le modèle, oui, donc le modèle qu'on a, c'est un modèle qui est rentable, donc au niveau de vue, vu qu'on dépense... Très peu en intrants. Et du coup, c'est rentable. Oui, oui. Et puis, donc ce qu'il y a c'est qu'on peut offrir aux gens un prix du produit qui est égal au produit qu'on trouve ailleurs, quoi. Donc, on n'a pas fait de plus-value bio pour que nos produits soient accessibles à tout le monde. Pour que le consommateur il puisse accéder à nos produits. Pour que tout le monde peut manger bio. Donc le souci de notre vie, c'est pas de faire vivre. Nous, c'est qu'on vit bien, mais qu'on puisse faire vivre les gens bien. Alors, en leur offrant des produits sains, et...
On va laisser répondre Stéphane par rapport à la question sur la rentabilité.
Allez-y d'abord, par rapport à ce que vous évoquiez là, au micro, si vous voulez enregistrer. C'est...
Qui a une autre question ?
Elle devait répondre, voilà.
Voilà, la conférence est enregistrée.
Je disais, ce qui est intéressant dans vos modèles, c'est que vous nous prouvez que sans ajouter, en gros, de saloperie, on arrive à vivre correctement. On entend tellement dire que les agriculteurs n'arrivent plus à vivre aujourd'hui de leur métier, que je voulais que vous développiez ces aspects-là pour prouver qu'en fait, on arrive à bien vivre en faisant vos métiers.
Alors, on revient, alors rapidement, après je détaillerai, mais ça marche là ? Oui. On est un peu comme à l'ancienne. Alors, ça peut paraître faire sourire, mais les anciens, ils étaient d'abord entre guillemets vivriers et puis ils vendaient l'excédent. D'accord ? Alors, je dis pas qu'on va manger de la viande tous les jours, parce que c'est pas mon cas, même si je produis de la viande. Mais par contre, on a quand même cette démarche-là. Et puis, il y a aussi une autre démarche qu'on dit souvent dans le monde de la paysannerie, c'est l'herbe la moins chère, c'est celle qui est sur pied. C'est-à-dire que dès qu'on commence, alors en fonction, parce que moi, attention, il ne faut pas comparer laitier et viande. On n'a pas les mêmes besoins au niveau de la qualité du fourrage. D'accord ? Donc ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, on a entendu parler du fourrage. Séchage en grange, c'est une super méthode pour avoir un foin d'excellence. D'accord ? Moi, je mets ça sur mes vaches. C'est tellement riche, tellement bon que elles vont pas profiter correctement. Elles vont faire crise de foie. C'est comme si moi je mangeais que du chocolat et puis que finalement je tiens pas le chocolat. Alors que les laitières, elles supportent mieux le chocolat que les miennes. D'accord ? Donc ça, c'est important à savoir. Mais en effet, par rapport aux intrants, par rapport au matériel, aujourd'hui, il y a un salon qui s'appelle le Sommet de l'élevage. Je sais pas si vous connaissez, c'est en Auvergne. Et ce salon-là, c'est plus important, on va dire, ça touche plus d'agriculteurs que le salon de l'agriculture à Paris. Le salon de l'agriculture à Paris est une vitrine pour les urbains, entre guillemets, mais le sommet de l'élevage est vraiment un salon dédié pour les agriculteurs. Moi qui connais le sommet de l'élevage que depuis 2011, on va dire, parce que c'est à la date où je me suis installé, les machines, on ne travaille pas pour les paysans, on travaille pour les concepteurs, les agro-industriels, les machinistes, et on va vendre aux paysans la machine qui va bien. D'accord ? Donc derrière, les agriculteurs, c'est difficile aussi de vivre moins. Par rapport à leur système, c'est difficile de produire. Ils sont sous pression parce que les cours, ils doivent faire des quantités, ils doivent produire, avoir des charges pour essayer d'avoir un produit à moindre coût pour permettre à l'agro-industrie d'arriver à alimenter et de produire et de se faire une plus-value sur leurs produits. Mais ce n'est pas eux qui se font la plus-value. D'accord ? Et également, par rapport à cette notion-là, c'est de se dire, on leur montre, l'agriculteur, il n'aime pas être en dessous, on va dire. Quand on demande ça va à un agriculteur, il va dire oui, tout va bien. Ah oui, ça va bien. Tu as vendu sur le marché ? Ah oui, j'ai vendu. Il ne dira jamais que ça ne va pas. Il dira toujours que ça va bien. Et il y a souvent aussi une concurrence. Alors ça dépend, dans le Rhône peut-être un peu moins, mais en Auvergne, si j'ai un gros tracteur et que moi j'ai un tracteur, mon tracteur il a 46 ans. D'accord ? Je ne suis pas prêt, je ne suis pas du tout machiniste, donc ça ne m'intéresse pas de faire de la mécanique. Par contre, la course au tracteur, la course au matériel, la course au GPS, le GPS, vous imaginez, le GPS, c'est la nouvelle technologie pour faire du bon blé, il faut un GPS. Et un GPS, ça ne coûte pas n'importe quel, c'est pas 2000 euros. D'accord ? Après, avec le GPS, on va créer des outils qui vont être ultra connectés, qui vont permettre à l'agriculteur de savoir quelle profondeur de sol travailler en fonction du type de sol qu'on a en dessous. d'accord, ou de traiter d'une manière différente. Donc ça, attention, on a aussi des investissements. L'agriculteur, il va investir parce qu'il faut, il pense que ça va lui servir, mais finalement, ça fait l'inverse de ce que ça devrait faire. D'accord. Donc je ne dis pas que tous les agriculteurs sont des idiots, loin de là. Par contre, attention à ce monde industriel. Moi, je n'ai pas de... Tous les jours, il y a des agriculteurs, tous les jours, ils voient un commercial qui vient les voir, qui vient toquer à leur porte. Et des fois, il y a des agriculteurs qui ne veulent pas dire non, qui ne veulent pas refuser la personne. Donc, ils vont dire, bon, ben, je te prends 10 bidons. Parce que, voilà, tu es venu, tu sais ce que ça vaut le travail, je te prends 5 bidons, je te fais. Mais derrière, les gens viennent et c'est... On dit un agriculteur fait travailler 7 à 10 personnes. D'accord ? Lui, il travaille pas, il n'arrive pas à vivre, mais il en fait vivre 7 à 10 personnes. Donc ça, c'est important aussi à avoir cette démarche-là. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est aussi cette notion de attention à quel type d'agriculteur, quel produit. Tout ça, c'est aussi à vous, consommateurs, d'être aussi dans l'achat. Là, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de l'AFAD. J'ai parlé un peu, c'est pas brutalement, parce que je n'ai pas donné de scène, mais j'ai parlé de tuer les animaux. D'accord ? Aujourd'hui, il y a deux associations qui s'appellent l'AFAD, Association Française pour l'abattage des animaux dans la dignité. D'accord ? Elle regroupe pas mal de consommateurs. Elle cherche à faire du lobbying auprès des ministères, auprès des... Elle va même labelliser, elle apporte même un label à des abattoirs s'ils respectent les conditions d'abattage qu'elle estime qui sont correctes par rapport à l'abattage. Et il y a également une association qui s'appelle Quand l'abattoir vient à la ferme. Et cette association, elle a pour objectif de dire, on a notamment, vous avez vu tout à l'heure, Rive-de-Gier, c'est McDo qui a pris la place de l'abattoir. Il y a dans plein de petits abattoirs sur le territoire. Avant, l'abattoir était de proximité. Aujourd'hui, les problèmes que l'on a, notamment avec les vidéos, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de petits abattoirs. Donc, c'est des grosses chaînes, c'est des grosses structures. C'est souvent mis par un seul monopole. Il y a une seule personne qui est propriétaire de 5-10 abattoirs. Et derrière, il y a une cadence qui est telle que... Et là, le but du jeu, c'est de se dire, nous, pour nos animaux, ce n'est pas respectueux de les emmener à 100 km. Donc, il existe, il faut le savoir, en Europe... Il y a des dérogations au niveau de l'abattage à la ferme. Les animaux sont tués avec, dans un groupe. Il y en a un qui est tiré, entre guillemets, au fusil, comme un chevreuil qui court dans une forêt. Mais c'est propre, c'est pas, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Il y a des vidéos, vous pouvez les voir. Hein, c'est pas de souci, notamment en Suisse, vous avez des vidéos. Et il y a des... Au niveau alimentaire, parce que là, aujourd'hui, en France, on nous dit non, 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 non. Autant l'agriculteur, il a le droit de tuer son cochon chez lui pour une consommation personnelle. Mais il n'a pas le droit d'en faire le commerce, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas eu un suivi sanitaire. Et au final, on voit que ça peut se développer en France. Donc, il y a aussi la possibilité de soutenir ces associations-là pour que la fin de vie des animaux soit plus respectueuse et plus digne, aussi bien pour l'éleveur, le consommateur et l'animal.
C'est juste pour revenir au système paysan. Avant, c'était le paysan. Et puis après, une fois que l'agriculture s'est intensifiée, le paysan il est devenu agriculteur. Et puis après, une fois que le GPS est arrivé, mettons, c'est l'exploitant agricole. Et puis, et bientôt, et c'est déjà là, c'est l'exploité agricole qui arrive. Alors il faut revenir paysan pour pouvoir s'en sortir. Et pour être paysan, il faut être petit. Il faut être en contact avec la terre. Et avec les animaux, quoi.
Alors, en effet, l'exploitant, c'est l'exploitant de carrière, l'exploitant forestier. Alors là, tout à l'heure, on n'a pas parlé des concentrés, parce que là, on a parlé de foin. D'accord ? Donc, le foin, il est produit chez nous, à la ferme. D'accord ? Mais des fois, pour les animaux, pour les vaches, que ce soit du lait ou de la viande, des fois, on a besoin de leur donner des protéines en plus. Alors après, c'est comment on fait pour trouver l'origine de ces protéines ? Soit on les produit chez soi, et tout va bien. Mais dans la plupart du temps, quand vous avez... vous connaissez le Brésil. D'accord ? Vous connaissez la forêt au Brésil. Eh bien, la plupart... Oui, il y a beaucoup, parce qu'on a échangé, même dans notre association Éleveurs Autrement, on s'est dit, comment tu fais pour les protéines ? Est-ce que tu arrives à avoir une prairie équilibrée, etc. ? Ton concentré, il vient d'où ? Je ne sais pas d'où il vient, je l'achète, je suis fourni par tel grossiste et c'est fourni. Et bien, il faut savoir que le soja, il vient du Brésil. Alors, d'une part, il contribue à la déforestation. Donc, quand vous achetez de la viande qui n'est pas, je ne vais pas faire de la pub pour Nature et Progrès, mais, ou bio, mais attention à bien essayer de comprendre que tout produit carné, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas manger de la viande, mais connaissez l'origine parce que si on donne du concentré non biologique, derrière, c'est la forêt du Brésil. derrière il y a du carbone, derrière il y a du transport, et après cette viande elle est OGM également. Donc attention, voilà, ça c'est important aussi à savoir que je mange de la viande, mais derrière l'incidence, eh ben, je vais être en faveur d'un petit agriculteur ou à l'inverse, au détriment d'un petit agriculteur.
Je voulais vous remercier de ce que vous nous apportez là aujourd'hui, parce que c'est quand même assez rare que des paysans s'ouvrent à dire réellement ce qui est la réalité. Et moi, dans mon secteur, tous ceux à qui je parle, ils sont vraiment taiseux, quoi. On a peine à leur sortir de mots. Et là, vous nous ouvrez les portes d'un monde qui est très fermé, auquel on n'a vraiment jamais accès. Et donc, ma question, c'était par rapport à votre prairie de 35 espèces différentes. Quand on part d'un champ qui a été cultivé en conventionnel pendant un certain nombre d'années et qu'on souhaiterait revenir à ce mode-là, quelles sont les démarches à faire, bon, à part le fait peut-être de ne pas labourer, parce que je pense que c'est premier, mais comment faire pour essayer de les réimplanter dans la prairie, sachant que c'est un sol argileux. Je ne sais pas si...
Eh ben, le plus important, c'est de laisser la terre tranquille. C'est de laisser la terre tranquille. C'est de ne pas la travailler. Enfin, donc c'est la travailler, mais c'est remettre une prairie sur un sol qui a eu du maïs, qui a eu du maïs pendant 30 ans. Eh ben, donc la meilleure structure, c'est de remettre une prairie avec des variétés anciennes, un mélange de légumineuses et de graminées. Et avec cette structure, elle va se refaire. Mais il faut, pour retrouver donc un équilibre normal, il faut entre 10 et 15 ans. Si ça a été du terrain avec du maïs, hein. Si ça a eu du maïs pendant 20 à 25 ans, en vigne aussi, ou de la vigne désherbée, eh ben, il faut 15 ans pour retrouver donc les mêmes feuilles que vous allez trouver avec la terre à côté. Moi, j'avais l'espérance parce que donc j'ai repris du terrain qui avait été en vigne, il y a un petit bout de vigne des voisins. Eh ben, il faut entre 10 et 15 ans pour retrouver le bon équilibre, quoi. On voit toujours... Et donc, on a beau ramener de l'humus, ça ne change pas. Il faut que la terre, elle se repose, en fait.
Les semences, vous les
trouvez variées, ah ben, elles viennent de... Ben, moi, j'en achète très peu. Donc, j'achète que des semences de prairie. Mais j'en achète pour même pas un hectare par an, pour 60 hectares, pour ressemer. Et souvent, en fait, on récolte, on laisse une parcelle venir à fleurs, à graines, et on arrive à récolter ces graines, même dans une prairie naturelle, si on arrive à récolter ça et on ressème cette graine. Après, donc, on remélange avec du trèfle violet, parce que dedans les céréales, donc, qu'on fait des rotations avec du trèfle violet pour faire engrais vert, du coup. Et donc, il y a une partie de ce trèfle violet qu'on moissonne pour récupérer de la graine. Et autrement, les semences de seigle vesse, les semences de seigle vesse, épeautre aussi de l'épeautre, et elles sont là depuis 30 ans. Et je peux vous dire que l'épeautre vesse, il vient de chez Jean-Pierre Jacquier, qui est donc au fond de la salle, c'est Jean-Louis Vincent, je sais pas si tu te rappelles, qui nous l'avait amené il y a peut-être 25 ans, ou il me semble, hein, je pense pas que je rêve. Vous avez un producteur bio aussi, un éleveur bio depuis très longtemps au fond de la salle.
Et, voilà. Bonjour. Et merci, bravo et merci déjà de résister dans votre pratique comme telle et de vos témoignages très touchants. Moi, je voulais juste revenir à la fin de l'animal. Quand vous avez dit, notamment, je pense, Stéphane, voilà, vous avez parlé de l'animal que vous emmenez. Donc, est-ce que vous emmenez un animal un par un ou deux par deux, j'aimerais savoir. Et aussi, en même temps, j'ai deux questions qui portent dans le même sujet. Vous dites que... Je ne sais pas, ça ne marche pas si. Ah oui, voilà, je ne suis pas assez prête, pardon. Et du coup, aussi, vous dites que vous parlez à l'animal, vous le préparez. J'aimerais savoir ce qu'il peut vous dire en quelques mots. Enfin, voilà, au niveau de la préparation, qu'est-ce qu'il en dit? Est-ce que vous arrivez vraiment à le préparer, ce qu'il soit OK? Merci.
Alors... Pour revenir sur le nombre d'animaux, donc ma bétaillère, c'est un van, une petite bétaillère tirée derrière un véhicule, d'accord ? C'est pas une grosse bétaillère. Et puis pour l'arc d'étourdissement, on ne peut pas se permettre d'étourdir deux animaux en même temps, d'accord ? Donc c'est un seul animal. Donc l'histoire, alors après on reviendra, je ne sais pas si je rentrerai trop dans le détail de la communication, mais je vous disais, je vous expliquais un mois avant que l'animal s'en aille. D'accord ? Donc, un mois avant que l'animal s'en aille, il est dans son pré avec les autres. Tout va bien. Et là, on lui dit, ben, tu es le prochain, tu te pars dans telle date. Donc, il y a une date. Hein, les animaux fonctionnent un peu comme nous. Ils ont besoin d'un planning. C'est pas tu vas partir, tu es le prochain à partir, c'est quand j'en sais rien. C'est tu pars à telle date. Je reviens, on va préparer tout ça, t'inquiète pas, on part à telle date. Donc un mois avant, il est informé. Au fur et à mesure, 15 jours après, donc 15 jours avant l'acte, il est à nouveau informé. Ensuite, 3 jours avant, on commence à vraiment rentrer dans le détail d'échange. On a déjà échangé avant, mais là, c'est un peu plus précis pour rassurer l'animal par rapport à comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer avant, pendant et après. D'accord ? Et après, la veille, l'animal est séparé, entre guillemets, donc c'est du plein air, hein. Il est séparé par les autres animaux, parce que pour faciliter, parce que j'ai un impératif, j'ai un horaire, donc il faut que ça se passe bien et sans stress, parce que si ça ne veut pas rentrer dans la bétaillère, entre guillemets, de nuit, il ne faut pas se dire « toi tu vas rentrer, courir après l'animal ». Non, ça ne marche pas ça. Donc l'animal, il est séparé de ses congénères, mais il est avec un autre lot qui est à côté. C'est-à-dire qu'au niveau des odeurs, l'animal, il est toujours en contact avec le voisin. Pour dire, par rapport à cette communication, alors je ne rentrerai pas dans les détails, parce qu'il faut vivre, parce que sinon vous allez me prendre pour
un... Un petit peu plus près, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende.
Comment ? Pardon, autant pour moi. Donc là, l'histoire, c'est que l'animal, il sent le voisin, il sent les voisins, c'est les mêmes, il les connaît, pas de souci, tout va bien. Et là, le matin, donc je vais le voir deux fois le soir. Je le vois au moment de lui donner le foin. Et même si on ne doit pas donner de foin, mais moi je donne quand même du foin à mes animaux et de l'eau. Bon, j'ai jamais eu de retour négatif à l'abattage. Donc. Et le soir à 10h, je retourne voir pour voir comment ça se passe, si c'est tranquille ou pas. Avant, il a eu... Alors, d'une part, il a eu de la communication. D'autre part, il a eu du gelsénium, d'accord, par rapport au transport. Et il a eu des fleurs de Bac. Donc, une fois qu'il a les fleurs de Bac, donc fleurs de Bac, c'est rescue, hein, ce qu'on donne, voilà. Et à partir de là... on va jusqu'à l'acte de l'abattage. Je ne vous cache pas, dans la route, tout était nickel. Même au moment de l'arrivée dans l'abattoir, approche de l'abattoir, d'accord, on a des animaux qui ne sont pas, qui bondissent pas, qui sont très sereins, très paisibles. Jusqu'à l'acte, les animaux sont... Et on parle. Je parle à mes animaux et pour vous dire que j'ai surpris des employés, dans le sens que en me voyant parler, je les occultais complètement, parce qu'on pourrait dire que c'est un milieu... on pourrait imaginer plein de choses sur ces gens-là. Déjà, il faut qu'ils travaillent. Ce n'est pas forcément des gens qui ont beaucoup de diplômes. Donc, c'est un acte aussi, il faut vivre. Et derrière, le fait de parler à mes animaux, jusqu'à ce qu'ils soient assommés, étourdis, les personnes se sont mises à parler. Elles parlent à l'animal également. Donc, au final... je suis aussi en lien entre certains employés qui peut-être refusent ça, mais il y en a certains, et c'est surtout celui-là que j'ai choisi quand je dis c'est lui qui fera l'acte, parce que je sais qu'il fera comme je l'entends et on se respecte mutuellement. C'est-à-dire qu'à la fin de l'acte, je remercie la personne qui a fait l'acte. Et pour vous dire que j'ai tellement remercié 3 personnes un jour, c'était mes premiers animaux que j'abattais, et je continue le relationnel, c'est important de maintenir du relationnel, c'est que les gens, donc normalement, on fait l'acte, le temps d'arriver à la maison, on téléphone et on connaît le poids carcasse de l'animal, voilà. Donc, poids carcasse de l'animal, et la personne, la secrétaire, m'a dit, j'allais la remercier en disant encore merci pour vos employés, etc. Et cette dernière me dit, ah mais je suis déjà au courant, ils sont empressés de venir me dire que vous étiez content et de vos remerciements. Pour vous dire que créer du relationnel aussi par rapport à des gens qui sont également stigmatisés dans l'acte, parce que malgré tout, ils peuvent faire bien, mais ils sont englobés dans une masse et on dit qu'ils feront mal, ça fait aussi du bon, c'est des humains. Hein. Et derrière, on arrive à créer quelque chose, et même avec le directeur de l'abattoir, aujourd'hui, le but du jeu, c'est de travailler comme ça, du relationnel, même si c'est mis dans la bétaillère, pour arriver un jour à lui dire, tu sais, il existe, on a le droit de tuer dans un caisson d'abattage. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas d'acheter ce caisson-là? Tu nous loues, tu le loues, c'est propriété de l'abattoir, mais on vient le chercher, on fait l'acte nous-mêmes, et derrière, on te ramène la carcasse que tu travailleras avec tes employés, donc il n'y a pas Il n'y a pas de notion de dire on va remplacer l'abattoir. Ils ont le matériel, ils ont les compétences. Et derrière, créer ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est la philosophie de on va au-delà de faire de la viande et de tuer. On est là aussi pour faire changer les mentalités jusqu'au cœur de l'abattoir.
Alors ma question, c'était, vous avez dit que vous nourrissez vos vaches à la main. Mais concrètement, ça se passe comment?
Oui, pardon. Quand je dis manuellement. C'est-à-dire que j'ai ma botte de foin. D'accord ? Elle est à un endroit de la parcelle. Et tous les matins et tous les soirs, je vais prendre leur volume. Admettons, je fais avec de la botte carrée, c'est plus facile à distribuer que des belles rondes. Donc, il me faut 3 coups de piston. Vous voyez, les coups de piston, c'est ça. Un coup de piston, 2 coups de piston, et l'ensemble de ces coups de piston vont faire une botte. D'accord ? C'est relié, c'est attaché avec une ficelle, et puis quand on ouvre, on peut distribuer comme ça. Donc, pour tel lot, il me faut 3 coups de piston le matin, 3 coups de piston le soir. Donc, je monte avec mes chiens, je vais dans le pré, je prends mes 3 coups de piston, ils sont couverts avec une bâche, je ne crois pas que ça s'abîme. Je prends les 3 coups de piston et puis je les défais. Et puis, je vais les défaire pour que tout le monde puisse avoir accès à manger en même temps. Voilà, c'est ça que je dis manuellement. C'est pas je prends la botte, je la mets dans un râtelier, je m'en vais. Les animaux, ils courent après le tracteur, je risque de les enfourcher ou autre. Et puis, ils sont tous dans la... Et puis, je ne les ai pas vus. Là, je vois tout le monde et voilà.
Et ma deuxième question, du coup, c'est... vous nourrissez les animaux avec du vin, du foin, mais ça, c'est énergivore. Et du coup, est-ce qu'il y aurait une possibilité d'élever des animaux sans foin?
Alors, qu'est-ce qui est énergivore?
Il faut un tracteur pour faire du foin, non?
Alors, il faut un tracteur, oui. Mais après, quel volume, quel litre? Ah, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est quelle consommation consomme, quelle énergie fossile pour produire X volume de foin. Ça, c'est important. Après, ce qui est plus énergivore, et après, c'est des techniques, parce que là, on parle du foin sec, mais après, il peut y avoir l'ensilage, il peut y avoir le foin enrubanné. Alors, énergivore, oui, parce que ça peut être énergivore le rubanage, parce qu'on utilise du plastique en plus. D'accord ? Donc, mais le foin en tant que tel, on ne peut pas se passer de... Alors, il y a des techniques, j'y réfléchis, mais c'est pas tout le monde n'est pas encore ouvert à ça, c'est de faire pâturer les animaux, mais tout le monde ne pourrait pas le faire, ça. Tout le monde ne pourrait pas faire pâturer les animaux en hiver, d'accord? Donc, il y a forcément besoin de faire du foin. Donc, le tracteur, avant, on faisait... C'était énergivore, mais ce n'était pas la même énergie. C'était le cheval, c'était la... Voilà. Et maintenant, c'est avec de l'énergie fossile, soit, mais on a quand même, on n'est pas forcément, ça c'est pas encore trop dramatique par rapport à ce qu'il peut y avoir dans l'élevage.
Bonjour, merci pour vos retours. Moi, ma question, en fait, c'était plus par rapport à l'intitulé de la conférence directement, qui est la place de l'animal dans l'agroécologie. Donc moi, la question que je me pose, c'est en fait, est-ce qu'on peut envisager un système agroécologique sans les animaux? En fait, je pensais que la conférence allait répondre à cette question-là.
Bon, on peut
et donc voilà, j'aurais aimé avoir vos retours là-dessus. Donc imaginez, voilà, si les véganes veulent qu'il n'y ait plus de vaches, plus de machin, est-ce qu'il y a des systèmes qui existent sans les animaux?
Alors,
sinon, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, imagine, on va redescendre en... c'est tellement loin, c'est peut-être CM1, CM2. Est-ce que vous vous souvenez de votre maîtresse qui vous montrait les grandes cartes de la France avec le relief, les précipitations, le climat, etc. Vous vous souvenez de cette grande carte? Eh bien, on va partir de cette carte. Et donc, cette carte, elle va vous montrer qu'on a des grands massifs montagneux. Donc, il y a le massif central, d'accord, où j'habite. On a les Pyrénées, on a les Alpes. On a des vénards, entre guillemets, qui ont des grandes plaines. On y fait plus ou moins des belles choses sur ces grandes plaines. On a la Beauce, on a la Limagne, on a... Bon. Donc, on peut voir qu'on a une différence. La France, c'est une différence de climat, de paysage, déjà. Alors, déjà, ça en dit beaucoup, différence de paysage. Ça veut dire qu'on a différents climats et qu'on a différents types de sols. D'accord ? Donc, à partir de là, produire de la graine à l'échelle de toute la France, sur toutes les parcelles sur lesquelles il y a actuellement des animaux... C'est pas possible. D'accord ? Donc, il va falloir de la rentabilité. Parce que si on réduit le volume, il faut que ça pousse quand même. Il va falloir que ça alimente les humains avec des graines ou des végétaux. D'accord ? Donc, ça, c'est une contrainte. Parce que la surface, elle va diminuer. Et derrière, il va falloir avoir une approche intensive derrière. On ne peut pas faire de la permaculture, même si c'est très productif. Hein, j'ai rien contre. Je connais le système. Mais permaculture à grande échelle. Et puis, ça ne sera plus forcément des agriculteurs qui auront les parcelles. Ça ne sera plus des exploitants agricoles qui auront les parcelles. ça sera peut-être des groupes. Des groupes qui diront, on va faire tant de blé. Et puis imaginez que ce n'est pas une année à blé ou à graines, je ne sais pas, les graines qu'on pourrait avoir, du sarrasin ou autre pour faire des pâtes ou autre. Imaginez que ce n'est pas une année à pâtes, à faire du sarrasin. Avec le réchauffement climatique, comment on fait? Déjà, cette problématique, elle est là. Sans dire qu'il faut dire, non, on est pro-viande, il faut faire de la viande, Mais la présence de l'animal, de l'élevage, au départ, il était à l'époque, m'accompagnes, au départ, c'était, l'animal, il répondait à tous les services de l'homme. À l'époque, au moment de la chasse, il s'habillait avec. Alors bon, après, certains disent, non, je ne veux pas m'habiller avec la peau d'animaux. Mais à l'époque, c'était ça. On s'habillait, on se nourrissait, on se réchauffait, voilà. Aujourd'hui, l'animal, sur les territoires du Massif central, sans animaux au Massif central, c'est une forêt. Alors, je suis pour la biodiversité, je suis pour le loup. Je suis pour le loup aussi, il ne faut pas croire que je suis un anti-loup. Mais par contre, attention, dans notre cas actuellement, on est en zone d'élevage, le loup est là, il y a forcément des règles du jeu à donner. D'accord ? Mais par rapport à cette notion de « on enlève l'élevage sur les endroits où il y avait de la prairie », forcément, ça va devenir de la forêt. Alors, les gens, quand ils partent en vacances, je connais personne qui part un mois au Canada, dans la forêt canadienne, où on a un cabanon en plein milieu de la forêt et auquel il faut vivre dedans. Alors aujourd'hui, c'est une pratique qui existe, ça s'appelle le bushcraft. C'est pour retrouver des sensations dans la nature, être autonome, d'accord ? Mais au niveau touristique, si vous mettez de la forêt à la place de tous les paysages qui étaient enherbés où il y avait de l'élevage, je vous garantis qu'il n'y aura pas grand monde. On n'est pas issus, on est des personnes, au niveau préhistorique, on est de la savane. On est habitué à avoir des espaces quand même ouverts. On n'est pas des milieux forestiers. On n'est pas d'origine forestière. Donc, habiter dans une forêt, vous resterez pas longtemps et vous prenez un petit peu en forêt, mais vous n'y vivez pas souvent. C'est pour dire simplement que le paysage, il va travailler, il va changer. Oui, pour les céréales, oui, pour la production de culture, mais derrière, vous allez en faire quoi? Trouver d'autres productions? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas trouver des céréales? Mais en Auvergne, ça gèle fort, il n'y a pas forcément de l'eau. On a des jours qui sont plus ou moins réduits, donc le temps de chauffe pour les graines est différent. Donc attention à tout ça. Voilà. Mais ça peut se faire. Chacun a son. Voilà, on peut ouvrir différentes choses pour travailler par rapport à ça.
Bonjour. Plusieurs choses, mais aussi un peu pour répondre à la question qui venait d'être posée ou pour apporter quelques éléments. Mais c'est un sujet qui est tendu dans la société, la question de l'élevage, de la viande, mais comme celle des pesticides aussi. Voilà, qui est pas où il n'y a pas genre tout noir, tout blanc, etc. Donc c'est du coup des sujets de société intéressants, mais où il n'y a pas forcément toujours des gens bien raisonnables autour de la table. Donc des fois ça fait des débats pas très intéressants. Mais enfin bon. Du coup sur la question de l'animal dans l'agroécologie, plusieurs choses comme ça qui me viennent, c'est de se dire, faut pas imaginer que ce qu'on consomme en viande aujourd'hui en intensif, ce qui est produit en intensif en France, si on veut le passer en extensif, notamment en termes de volaille, de porc, le porc c'est 95% en bâtiment. Si on s'amuse à faire du porc plein air pour produire exactement la même quantité de bidoche, il va falloir raser de la forêt, quoi. Donc, déjà ça, on peut pas, dans le système actuel, si on fait juste de se contenter de passer de l'intensif à l'extensif, c'est pas possible. Mais pour faire l'intensif aujourd'hui, on est obligé d'importer énormément d'Amérique du Sud. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, quoi. Ça va vite s'arrêter. De toute façon, bientôt, il n'y a plus de forêt, etc. Donc, deuxième chose, si on n'est pas foutu de produire la bouffe pour nos animaux, on produit moins d'animal. Ouais. Enfin, ça devrait même être la base de tous les syndicats de se dire, si on n'est pas foutu de produire, on ne produit pas, quoi. Enfin, je ne sais pas, moi.
On est là.
Donc voilà. Donc, il y a ce double truc, c'est-à-dire, il faut beaucoup plus d'éleveurs, c'est ma question, c'est la question de la transmission, parce que intensif ou pas, le problème c'est qu'il n'y a plus personne qui veut s'installer. C'est qu'il faut moins de viande, plus d'éleveurs, il faut consommer moins de viande, voilà.
Oui, elle a répondu là, vous avez répondu.
Oui, mais sauf qu'il faut faire aussi attention que, comment dire, ce qu'on s'aperçoit aussi un peu sur les marchés, c'est que ceux qui sont sensibilisés au fait de moins consommer de viande, c'est ceux qui consommaient déjà de la viande de bonne qualité. Les bouffeurs de McDo, ils s'en foutent de toutes ces questions d'Amérique du Sud et tout ça. Voilà.
On est d'accord.
Et puis, dernière chose par rapport à la question de l'animal, c'est qu'il n'y a pas qu'une histoire de... dans les montagnes, on peut faire que de l'élevage. Moi, je suis en plaine, il y a de l'élevage. Et quand on est, par exemple, maraîcher, comme ce qui est mon cas, on a besoin de l'élevage aussi quand on est en bio.
Le sol.
Parce qu'on exporte beaucoup, enfin le plus possible, entre guillemets, de légumes pour en vendre, des légumes bio, vendus en direct. Mais sauf que du coup... c'est pas le Saint-Esprit qui va remettre NPK dans nos sols, quoi, et tout ce qui va avec. Donc du coup, le meilleur moyen qu'on a trouvé depuis des milliers d'années, c'est le fumier composté. Il y a l'agriculture sur sol vivant qui permet de moins utiliser. On utilise beaucoup d'engrais verts, ce qui permet de diminuer les imports en fumier. Mais voilà. Et vous parliez de la permaculture. Allez lire les études. Les apports de fumier sont énormissimes. Donc les solutions, elles se font pas par la permaculture non plus, quoi. La ferme du Bec est loin, il y a un centre équestre juste à côté. Hein. Donc, mais juste pour rappeler ça, parce que souvent on nous dit grâce à la permaculture, on va pouvoir se passer de l'élevage.
C'est
complètement faux, c'est l'inverse.
C'était pas ça. Hein. C'était, je disais, des systèmes.
Mais en tout cas, il faut, dans tous les cas, il va falloir de l'élevage dans ces systèmes-là. Et voilà, j'ai pas de réponse, c'est juste des questions, mais plus sur ce que vous voyez sur la transmission. Quand on sait que dans les 10 ans qui viennent, il y a la moitié des agriculteurs qui partent en retraite. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui veulent se réinstaller. Merci.
Sur les gens qui ne veulent pas s'installer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'interviens beaucoup dans des établissements scolaires et dans un grand nombre de gens qui ne sont pas forcément des jeunes, mais qui souffrent, je dis souffrent, ils sont en grande souffrance dans des entreprises où on les prend... Hélas, je vais dire le mot comme des esclaves. On revient au prolétariat du 19e siècle. Un certain nombre veulent reprendre de l'agriculture, du contact avec le vivant. Et malheureusement, les structures agricoles à l'heure actuelle, qui sont en train de grossir parce que c'est la maladie du siècle, il faut toujours être plus gros, soi-disant, pour être rentable, feront qu'il y aura des difficultés à trouver de la terre, mais il n'y a pas des difficultés à trouver des gens. Et je crois que ça, c'est un grave problème pour l'avenir. Cependant, il y a quand même des solutions, même si elles ne sont pas valables à 100%. Il y a par exemple l'association Terre de Liens qui rachète des terres, qui rachète des fermes et qui après fait une convention avec les gens qui ont des projets d'installation et qui se remettent à cultiver dans l'esprit de ce que nous ont montré, décrit plutôt Marc et Stéphane. Moi, je vous dis par exemple, allez voir le film Le Champ des Possibles, où vous verrez qu'il y a plein de gens, y compris des gens qui ont des diplômes Bac plus 5, Bac plus 6, qui s'installent dans le champ des possibles. Par exemple, il y a 11 jeunes qui sortent d'école d'ingénieurs et ça fait maintenant 3 ou 4 ans qu'ils ont repris une ferme dans le sud de la Haute-Vienne, une région où il y a beaucoup de déprises agricoles et qui en sont en train de faire des miracles localement. Non, je crois qu'il faut bien faire la nuance.
Oui,
oui, mais je regarde les chiffres.
Oui, mais on est d'accord. Oui. On est d'accord. Après... arriver à refaire à ce que la France soit alimentée que par des agriculteurs comme nous, je pense que ça pourrait être un champ des possibles, mais ce n'est pas encore pour demain quand on voit ce qui se trame. D'accord ? Tout à l'heure, je vous ai parlé des tracteurs. Mais les agriculteurs qui vont au sommet de l'élevage, ils ne se rendent pas compte que ces tracteurs sont en train de les tuer, de les faire disparaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure, je vous ai parlé du GPS. Maintenant, il y a les tracteurs. Avant, il y a. C'était peut-être quand les tracteurs qui avançaient tout seuls, qui faisaient demi-tour. Maintenant, il y a une époque où il y avait tracteur, on était au stade de prototype, entre guillemets. Le tracteur, il arrivait à faire demi-tour dans son pré. Et puis, tout seul, tranquillement, on pouvait lire le journal. Et puis, le gars, il était dans le tracteur s'il y avait un problème. D'accord ? Aujourd'hui, le robot, tracteur, il fonctionne. Il n'y a plus besoin de personne dessus. Et dans ce cadre-là, entre payer des gars qui râlent, qui se mettent en gilet jaune, ou qui se mettent en maladie, ou qui traînent la patte, et avoir des robots, 10, peut-être que ça coûte des millions, mais les hectares qu'on aura, c'est pas un problème ça. Donc au final, l'agriculture, il y en a deux. Il y a ceux qui luttent pour arriver à voir. Et dans la Vienne, c'est pas là où les groupes ils vont aller. ils vont aller où il y a du rendement, où il y a des quintaux, dans la Limagne, dans la Beauce, dans les plaines. C'est là où il y a les groupes, les Danone et compagnie, c'est là où vous verrez des robots ailleurs. Mais ce n'est pas là, les gars qui vont produire, on va dire, hors zone de plaine, ne sont pas forcément à côté des grandes villes. D'accord ? Donc, les gars, ils auront la volonté, ils auront l'éthique, mais pour vendre le produit, eh ben, il va falloir venir le chercher ou trouver un moyen, les aider pour arriver à faire des passerelles. Parce que sinon, vous aurez les bons produits d'un côté, les robots de l'autre, et puis vous qui serez au milieu, et il faudra faire le choix de vos... Vous êtes en tant que consommateur, je ne dis pas les urbains, machin, mais vous êtes les... Entre guillemets, c'est, on répond à votre demande. Rien qu'un discours, le veau, qui mange du veau dans la pièce ? Vous l'aimez blanc ?
Non, je veux juste vous dire, c'est de toute façon...
C'est pas son élevage, hein. Attention, hein, ce que je vais dire. Hein. Ça n'a rien à voir avec son élevage. Hein. Vous l'aimez blanc ? Quand il est bien blanc ? Non. Bon. Parce que dans certains cas, la plupart des gens, un veau, la peau, la viande, faut qu'elle soit blanche. Faut pas qu'elle soit rosée. Sinon, c'est un veau sous la mer et là, on dit c'est pas du veau. Alors, pour dire juste dire que le consommateur, c'est lui qui donne la règle à l'agriculteur, s'il vaut du veau blanc, on lui fournira du veau blanc. S'il faut du veau blanc, je ne vais pas vous rentrer dans les détails pour faire du veau blanc. Mais ce n'est pas du veau rosé. Le veau rosé, il est sous la mer, il est avec sa mère dans les prairies. Le veau blanc, c'est du laitier qui est mis dans des batteries. Il ne voit pas la lumière parce que sinon, ça va faire de l'anémie. Donc, le consommateur, c'est bien lui qui dirige. Le cadre, c'est lui qui a l'argent, c'est lui qui paye. S'il oriente, c'est lui qui peut orienter. Donc, tout simplement pour dire que vous pouvez, c'est vous les maîtres, entre guillemets, de la situation, c'est vous. Et on produira ce que vous attendez.
En fait, il faut refermer le consommateur parce que c'est vous, consommateur, qui allez donc décider l'agriculture de demain. C'est vous, c'est les consommateurs qui vont décider en boycottant les grandes surfaces, les trucs, les grands groupes qui ont transformé ces produits. Et c'est en allant acheter à la base chez le producteur et en discutant au producteur que là, vous retrouvez quelque chose. Et c'est là qu'il y aura plus de producteurs. Parce que le monde, le consommateur, en fait, c'est lui qui va ramener le paysan à la terre. Et c'est même être consommateur. Parce que nous, chez nous, sur la ferme, depuis qu'on a ouvert le marché, donc quand on a beaucoup de contacts avec les consommateurs, et il y a, je veux dire qu'il y a quasi un quart des jeunes couples qui changent de métier. Parce qu'ils ont redécouvert, et en venant à la ferme, ils ont redécouvert ce que c'était les choses réelles. Et je peux vous dire tout le monde se pose des questions, et il y a quasi un quart de jeunes ou de plus ou moins jeunes qui changent de métier, qui reviennent à la terre. Et donc on essaye de trouver des terres, même dans le coin, on essaye d'installer des jeunes. Et ben, donc on est tout content, on les accompagne aussi. Et du coup, ben, c'est bien quoi.
Quand vous dites un quart des jeunes qui reviennent au métier, c'est un quart des jeunes qui s'installent, qui viennent d'un autre métier ?
Oui. Donc il y en a beaucoup. Après, donc ils sont freinés. Après, ils sont peut-être freinés par rapport aux revenus, par rapport aux. Mais de toute façon, donc qui leur faut un temps pour s'installer. Après aussi, il y a une surcharge de travail qui ne voient pas au début. Alors, donc des fois, après, donc ça se passe plus ou moins. Mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui reviennent et que ça se passe bien. Et qui sont revenus en découvrant ce que c'était la terre.
Moi, du coup, c'était aussi, j'aurais une question sur du coup, la place de l'animal dans l'agroécologie. On a parlé des problèmes de fertilité des sols où c'est important. Après, je me demandais dans les différentes activités, comment là, le cas du maraîcher, là, vous avez un voisin qui a un éleveur pas loin, mais dans pas mal de situations, moi, je suis originaire de Drôme, l'élevage, il n'y en a plus, sauf dans les zones de montagne parce que c'est subventionné. J'aimerais peut-être m'installer, j'en sais rien, mais je n'imagine pas un système sans un mixage d'activités, mais ce n'est pas possible parce que ben, les bonnes terres, on les garde pour faire des semences pour Syngenta. Comment on peut encourager un morcellement des terres pour cueillir dans un même village de l'arboriculture, du maraîchage, de l'élevage? Est-ce que vous, comme vous êtes un peu des alternatives, est-ce que vous avez des idées de solutions pour pouvoir encourager des agglomérations à le mettre en place? Parce que je ne sais pas comment l'imaginer. Parce que consommateur, ok, je vais acheter, j'achète au marché, etc. Je choisis ma viande, je vais essayer d'acheter chez quelqu'un qui a sa pairée. Mais on est sur de la construction de territoire, là. Comment on fait ?
Alors, bon, il existe là des démarches, c'est les PAT, projets alimentaires territoriaux, c'est des réflexions qui sont sur les territoires. Alors, tout le monde n'est pas... Alors, c'est possible pour toutes les nouvelles communautés de communes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces... Bon, il y a eu les fusions, là, et à partir de là, elles ont, elles peuvent, entre guillemets, prendre en charge cette approche-là, avoir cette réflexion-là. Après, ça dépendra forcément des élus. Donc, il y en a qui seront pour, il y en a qui traîneront de la patte. Donc, tout dépend dans quel territoire vous êtes par rapport à cette démarche-là. Mais généralement, ça part de la filière, on va dire, ça part de la production jusqu'à la filière et à la consommation, il y a la distribution, que ce soit pour la collectivité, hein, pour des repas collectifs, ou que ce soit pour des repas, du moins le consommateur en particulier. Mais c'est vrai que comme ça, je ne suis pas élu. Ça pourrait être intéressant d'avoir un élu agriculteur. Je ne sais pas si on est dans la salle. Peut-être qu'ils sont plus au courant ou plus dans une dynamique. Mais c'est vrai que comme ça, c'est difficile de trouver à la fois de vouloir se diversifier, mais de ne pas forcément avoir les terrains. Alors généralement, ben, faut commencer avec ce qu'on a. On fait petit, entre guillemets. On divise la parcelle que l'on a et on la réduit. Et puis, on essaie de diversifier déjà à l'échelle. Et puis, on voit que les consommateurs, eh ben, ils se disent ben, on est intéressé par tes produits. Et puis le voisin, il voit que finalement, ben, ça marche. Donc, il peut avoir tendance à dire, ben, tiens, viens me récupérer 2000 mètres carrés là. Alors, c'est clair que c'est une galère parce qu'il faut courir dans tous les sens. Mais par contre, malheureusement, quand on n'est pas issu de 70 hectares ou 100 hectares ou 150 hectares qu'on n'est pas né avec, forcément, ça fait partie des étapes à contrecarrer pour arriver à résoudre le problème.
Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Eh bien, écoutez, merci à Stéphane, merci Marc, merci Nature et Progrès pour l'organisation de cette conférence. Je repasse la parole à la présidente.
Oui, ben, pour conclure, vous voyez que ce que vous entendez souvent, c'est effectivement les difficultés d'un certain nombre d'agriculteurs qui se sont engagés dans cette industrialisation agrochimie. Vous savez que peut-être pas... Le taux de suicide en France, c'est le plus important chez les agriculteurs. C'est à peu près un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours. Donc la situation est grave. Moi, je vais dire très grave. Parce que produire de l'aliment pour ses concitoyens, c'est un but qui est remarquable. Mais être dans une situation où on ne peut plus en vivre, décemment, c'est aussi terrible. Donc, ce que nous ont montré Marc et Stéphane, même si c'est pas simple, même si c'est pas facile tous les jours, mais c'est qu'on peut vivre et être dignement reconnu dans son travail quand on fait quelque chose, quand on fait un travail qui est en lien avec tout ce qu'on a autour de nous comme vivant. C'est l'entretien du vivant. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. Et en tant que consommateur, on doit se poser la question si nos aliments, notre nourriture, correspond bien à un vivant qui est en lien avec les hommes et avec la nature. Merci de votre écoute. Et puis, on va dire merci à Marc et à Stéphane, parce que je pense que leur témoignage est particulièrement intéressant et éviter de se couper de ce monde de la production agricole. Voilà. Merci. Bonne journée.